Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'église du tabernacle et qui sont à l'écran maintenant, nous avons une fois par mois un dimanche que l'on appelle culte institut biblique, où nous prenons le temps d'un enseignement d'une heure, avec un temps d'enseignement et temps de questions y compris. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons avoir maintenant un temps d'enseignement, après lequel nous prendrons encore le temps de partager la scène et puis d'avoir un temps d'annonce, une bénédiction finale. Ceux qui sont aujourd'hui à l'écran, nous quitterons au début du temps de Sainte-Cène et nous poursuivrons ensuite entre nous pour la fin de ce culte. Pour l'enseignement que j'aimerais apporter ce matin, eh bien, j'ai choisi d'évoquer avec vous la question du choix des responsables en Église. Comment choisir des responsables en Église ? La question se pose dans notre communauté, puisque nous avons mentionné déjà le fait que nous aimerions élargir notre conseil d'Église. Mais quand je mentionne les responsables, ce ne sont pas seulement aux responsables du conseil d'Église que je pense, mais aussi à d'autres responsables dans la communauté. Être responsable est assurément une tâche difficile, exigeante aujourd'hui, une tâche qui demande beaucoup de temps. Facilement, les responsables sont visés, ils peuvent être dénigrés, il faut qu'ils aient parfois les épaules solides. Et je crois que nous sommes invités, et je le dis d'emblée dans ce culte, nous sommes invités à prier pour eux, afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges du diable, nous dit Paul au chapitre 3, verset 7. Être responsable, ce n'est pas juste un choix individuel, ce n'est pas seulement non plus l'appel d'une communauté, mais c'est d'abord l'appel de Dieu. Il y a une vocation. Dieu appelle des personnes au fait de devenir responsables, d'assumer des responsabilités en Église. Et nous lisons dans les Écritures que c'est Dieu qui donne des responsables, comme des cadeaux, un don, un cadeau. Il donne des responsables à son Église et il pourvoit aux besoins de son Église. Si c'est Dieu qui donne des cadeaux à son Église au travers des responsables dont il la pourvoit, cela peut questionner mon attitude à l'égard des responsables. Comment est-ce que je les vois ? Est-ce que je les vois comme des cadeaux de Dieu ? Comme des dons que Dieu fait à son Église. Un auteur dit que le lien que nous avons avec nos responsables reflète d'une certaine manière le lien que nous avons avec Jésus-Christ. Si je ne suis pas à même de voir les responsables comme un cadeau que Dieu me donne, suis-je à même de recevoir le cadeau que Christ me fait ? Certainement qu'aucun responsable n'est parfait. Certainement que chacun a son petit défaut, qu'il a un caractère qui peut, sur certains points, parfois nous irriter. L'Église n'est pas parfaite non plus. C'est une Église imparfaite dans laquelle nous sommes. Et il y a tant de choses que l'on peut voir dans les Églises, et un peu sur un ton humoristique, on peut dire « Mais vous avez vu le chapeau de Tante Berthe dans l'Église ?» Vous avez vu, mon voisin ne m'a pas dit bonjour ce matin. Vous avez vu le conseil, ce qu'il a manqué de recul dans cette décision et de manque de discernement. Vous avez vu le pasteur, ce qu'il a fait l'autre jour. Et cet ancien, vous avez vu la femme qu'il a. Et on peut entendre tellement de critiques sur ceux qui portent la responsabilité dans l'Église. L'Écriture nous invite, je crois, à prier pour nos responsables, pour cette responsabilité lourde qu'ils assument. J'ai un ami de longue date, quelqu'un qui a été un des responsables d'église dans la première église où j'ai eu l'occasion d'exercer mon ministère pastoral, quelqu'un qui est mon aîné d'une trentaine d'années, 40 ans même, 40 ans, de 40 ans mon aîné, et qui prie depuis 20 ans pour moi tous les jours. C'est quelqu'un qui est fidèle et qui a décidé de porter les responsables. Il prie pour moi, il prie pour quantité d'autres pasteurs qu'il a connus dans son union d'église. Et je trouve qu'il est vraiment un modèle de persévérance. Alors il s'inquiète parfois de savoir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les nouvelles pour qu'il puisse prier. Mais même sans avoir des nouvelles toutes fraîches, il sait qu'il est précieux de porter les responsables auprès de Dieu dans la prière. Nous avons dans l'Église des gens qui sont tout aussi fidèles et qui prient tous les jours également. Nous avons parmi nous une personne qui me dit régulièrement « Je prie pour toi tous les jours ». C'est précieux d'avoir des gens qui prient pour le pasteur et pour les responsables de l'Église, pour les membres du conseil, pour tous ceux qui ont des fonctions dans l'Église. C'est nécessaire. Comment choisit-on les responsables ? Dans la société, quand on fait le choix d'un responsable, on va observer quels sont ses diplômes, quelle est sa réussite professionnelle, ses compétences, ses qualités personnelles, son réseau d'influence. On va parfois choisir des gens que l'on connaît bien. Mais généralement, on exclut de tous ces critères les critères qui sont d'ordre moral. Chacun revendique son droit à la vie qu'il veut quand il n'est pas au travail. Il peut faire ce qu'il veut. Dans l'Église, comment choisit-on les responsables ? J'ai observé au fil de mon ministère qu'il est tentant parfois d'appliquer à peu près les mêmes critères que ceux que l'on applique dans le monde. On va choisir des personnes qui ont des compétences professionnelles, qui ont des diplômes, qui ont des qualités personnelles, certes, requises pour exercer cette tâche. Mais on n'a pas toujours fait l'examen attentif de ce que nous dit l'Écriture quant aux qualités morales, aux qualités de vie spirituelle qui sont attendues des responsables. Ce n'est pas évident de choisir des responsables, mais l'Écriture nous invite à adopter un autre regard que celui du monde. Nous ne devons pas choisir en fonction du paraître, nous ne devons pas choisir uniquement en fonction des diplômes, mais nous devons choisir en fonction de qui est la personne. Quelle est sa vie, quelle est la qualité de sa vie avec Dieu? Qui est cette personne devant Dieu? De quel don Dieu l'a-t-il pourvu? Quelle est sa piété? Quelles sont ses qualités morales? Et comment se traduit son amour de Dieu et pour les autres, pour son prochain, dans son service qui est déjà actuel dans la communauté? Bien sûr, quand on choisit quelqu'un, on va tenir compte d'abord des dons que Dieu lui a confiés. Et même si cela n'apparaîtra pas directement dans les textes que nous allons méditer tout à l'heure, il est évident, et c'est l'enseignement que l'on retire de toute l'Écriture, Dieu donne des dons à son peuple, Dieu donne des dons particuliers à chacun d'entre nous, et il s'attend à ce que l'on puisse mettre ces dons au service de son Église. Donc les responsables que l'on va choisir doivent avoir des dons en rapport avec le service qui est attendu d'eux. C'est un préalable. Et ça découle d'une saine compréhension des Écritures. Mais on a parfois le risque en Église de se dire « il y a des fauteuils vacants, il faut absolument les remplir, prenons les gens de bonne volonté qui voudraient bien occuper ce fauteuil-là ». Je pense que cela conduit fréquemment ensuite à des difficultés quand on sollicite des personnes qui n'ont pas été équipées pour la tâche attendue d'elles. Je vous invite à lire un premier texte dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4 qui nous parle de plusieurs ministères que Dieu donne à son Église. Éphésiens 4, versets 11 et 12, nous lisons ceci. Je lis dans la Bible du Semeur. C'est lui. Donc c'est Dieu qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes ou soient équipés, pour qu'ils soient équipés pour accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Dieu a fait don de ces personnes, des apôtres, aujourd'hui on les appellerait plutôt missionnaires ou implanteurs d'églises. Il a fait don de prophètes. Aujourd'hui, on dirait plutôt que ce sont des ministères d'encouragement au sein de la communauté. Il a fait don d'évangélistes, c'est-à-dire de gens qui sont capables d'apporter la parole en interne au sein de la communauté, mais aussi plus loin, au-delà. Il a fait don à l'Église de gens qui sont pasteurs, qui ont une capacité de prendre soin du troupeau, et d'autres qui sont enseignants. Et souvent, ces deux qualités sont mises aussi ensemble, pasteur et enseignant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'énumération de ces cinq ministères, il y a un fil rouge. Toutes ces personnes ont en commun d'avoir un ministère de la parole. Elles ont toutes un ministère de la parole. Et Dieu, pour son Église, a pourvu son Église de personnes qui ont un ministère de la parole. C'est un ministère qui est nécessaire. On ne peut pas imaginer une Église qui soit fidèle à la parole de Dieu sans qu'il y ait des gens qui annoncent cette parole, qui encouragent par cette parole, qui font en sorte que des personnes puissent trouver le chemin du salut par cette parole. Dieu a voulu équiper son Église de ministère de la parole pour que l'Église soit conduite par la parole. Les personnes que l'on a nommées, les apôtres, donc les missionnaires, les implanteurs, les personnes qui ont un don d'encouragement, les pasteurs, les enseignants, sont là pour équiper l'Église afin que l'Église soit conduite par la parole. Ils sont là pour équiper l'Église, non pas pour faire tout le travail tout seul, mais pour amener des gens à être suffisamment matures dans leur foi afin qu'eux-mêmes puissent amener d'autres personnes, puissent exercer un ministère. Ils sont là pour équiper. Équiper les saints, les rendre aptes à l'œuvre du ministère. À côté de ces ministères de la parole, Dieu a donné une autre catégorie de ministères qui sont aussi indispensables pour le bon fonctionnement de l'Église. Ce sont les ministères de gouvernance. Dieu a donné des ministères de gouvernance pour structurer l'Église, pour la diriger, pour la gérer, pour permettre à la communauté de fonctionner bien, harmonieusement, et lui permettre de faire la mission qui est la sienne. Donc il y a deux types principaux de ministères, si vous voulez, les ministères de la parole et les ministères de gouvernance, et les deux sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'Église. Comment ces ministères s'articulent ? Le Nouveau Testament ou la Bible n'est pas extrêmement précise à cet égard. Les textes que l'on a sont souvent des textes qui nous sont donnés non pas à titre prescriptif, mais descriptif. Ils nous décrivent la situation qui prévalait, mais ils ne font pas partie d'enseignements qui disent exactement comment nous devrions faire. Donc il n'y a pas un modèle d'organisation qui serait unique dans le Nouveau Testament et qui nous contraindrait aujourd'hui. On voit que ces modèles ont été divers au sein des différentes églises du Nouveau Testament. On voit aussi que les églises ont parfois évolué et que la manière de gouverner l'Église a évolué dans le temps au sein d'une même église. Tout cela, nous le voyons quand nous étudions attentivement le Nouveau Testament. Donc nous avons la possibilité aujourd'hui d'avoir un mode de gouvernance dans l'Église qui puisse tenir compte de la culture et du contexte dans lequel nous sommes. Mais s'il n'y a pas de modèle à imiter, il y a néanmoins un certain nombre de repères qui nous sont donnés pour savoir comment faire. Si j'observe l'entier du donné biblique et que je regarde d'abord l'Ancien Testament, je vois que dans l'Ancien Testament, il y avait des personnes qui étaient revêtues d'une autorité forte et qui dirigeaient le peuple de Dieu. Je pense à Moïse, je pense à David, je pense aussi à tous ces textes qui prennent l'image du berger pour dire qu'il y a besoin d'un berger pour conduire le peuple. Nous retrouvons ces gens qui dirigent, qui conduisent dans le Nouveau Testament en la personne des apôtres, qui sont là pour conduire l'Église avec un ministère qui souvent déborde le cadre de l'Église locale. Puis j'observe une deuxième dynamique dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu a donné des dirigeants dans les églises locales afin que collégialement ils conduisent cette Église. On trouve déjà cette dynamique dans l'Ancien Testament. Je vous ai cité. Mais à un moment donné, ça faisait trop pour lui. Et son beau-père s'est approché, lui a dit, mais Moïse, tu devrais déléguer, tu devrais travailler avec d'autres personnes. Il lui a recommandé de mettre en place 70 anciens pour l'aider dans sa lourde mission. Cette idée d'avoir un groupe de personnes qui puissent diriger se trouve encore ailleurs dans l'Ancien Testament. Dans la société antique, les personnes âgées étaient considérées, on s'approchait d'elles pour savoir ce qu'elles pensaient. On estimait qu'elles avaient une sagesse de par l'âge qui était le leur. Et parfois, on voit que ces groupes d'anciens, anciens en termes d'âge, sont aussi des groupes d'anciens qui sont là en termes de fonction. Ce sont des gens choisis qui peuvent siéger aux portes de la ville, qui ont un rôle, je dirais, en termes d'octroi de la justice, en termes de capacité à gérer tout ce qui est de type social pour le peuple. Ils ont un rôle aux côtés du roi, aux côtés de ceux qui gouvernent. Et puis, quand on évolue dans le temps, on s'aperçoit qu'à l'époque de Jésus, il y avait un conseil d'anciens qui s'appelait le Sanhédrin. On voyait dans les synagogues aussi des conseils d'anciens qui dirigeaient la synagogue. Et à la tête de ces conseils, il y avait une personne qui pouvait avoir un profil assez affirmé, en tout cas dans les synagogues. On voit donc que parfois le gouvernement se fait par une personne seule, d'autres fois par un collège. Et l'on observe encore une troisième dynamique, c'est que certaines décisions sont prises parfois par tout le groupe, par tout le peuple d'Israël, ou dans le Nouveau Testament, par toute l'Église. On retrouve ça dans Actes 15, par exemple. Ces trois dimensions, seul, un groupe, toute la collectivité, c'est une constante que l'on retrouve aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Comment les choses s'articulent entre elles, ça c'est parfois plus compliqué à saisir. Mais l'on retrouve cet équilibre. Cet équilibre, on le trouve aussi au sein de notre Église actuellement, puisque nous avons une équipe pastorale, que nous avons un conseil d'Église qui dirige collégialement, et puis que nous avons l'Église qui, en tant qu'assemblée des membres, peut prendre les grandes décisions qui orientent la vie de l'Église. On s'achoppe parfois sur le nom de ces responsables. Comment doit-on les appeler? Il y a plusieurs noms qui nous sont donnés dans le Nouveau Testament, qui sont des titres plus ou moins équivalents. Il y a d'abord le nom d'ancien, presbytéroi, qu'on a traduit parfois en français presbytéroi par presbytre. Donc ancien ou presbytre, c'est exactement la même chose. Ce ne sont plus nécessairement les vieillards de l'Ancien Testament, mais ce sont des gens qui ont une fonction de direction dans la vie de l'Église locale. Les anciens ne doivent pas forcément être âgés, ils doivent avoir un certain nombre de qualités, mais l'âge n'est pas mentionné comme une des qualités essentielles pour pouvoir occuper cette fonction d'ancien. Il y a ensuite des épiscopes. Épiscope vient d'un verbe qui veut dire veiller sur, surveiller. C'est le rôle des épiscopes de veiller à la fois au bon fonctionnement, mais aussi de veiller sur le peuple de Dieu dont il a la charge. Ce terme épiscope a donné en français le terme évêque. Mais au départ, même s'il y a une petite hésitation, on peut considérer qu'il est quasiment un terme identique à celui de presbytre ancien. Les épiscopes sont des anciens. Alors, il y aurait lieu là d'affiner la chose et que j'entre dans les détails pour vous dire, pour vous prouver cela. Mais je vous donne un seul exemple. Dans Actes 20, 28, Paul s'adresse un peu précédemment aux anciens. Il convoque les anciens pour leur dire au revoir. Et puis, quand il leur parle, il est dit qu'il parle aux épiscopes. Donc, ceux qu'il a convoqués sont des anciens, ceux à qui il parle sont des épiscopes, ce qui semble dire que ce sont deux termes équivalents. On voit encore un autre terme dans l'Écriture, celui de conducteur, qu'on pourrait traduire par dirigeant, guide. Et qu'est-ce qu'un guide ? Aujourd'hui, on ne dit plus guide, on dit leader. Leader, en anglais, veut dire guider, conduire. Donc, que l'on parle d'anciens, d'épiscopes, de conducteurs, on parle des dirigeants de l'Église. Aujourd'hui, dans vos Bibles, vous ne trouvez peut-être pas le terme épiscope, ça dépend de la traduction que vous avez. Mais la Bible du Semeur traduit par dirigeant. La Bible Second 21 traduit par responsable. Donc voyez qu'on peut appeler ces personnes qui portent une responsabilité dans l'Église de diverses manières. Leader, épiscope, dirigeant, ancien. Ce qui compte, ce n'est pas tellement la terminologie. Aujourd'hui, on pourrait trouver d'autres noms. Ce qui compte, c'est la fonction occupée et la manière de l'exercer. Dieu établit ses ministères de gouvernance pour le bien de son Église. Ces gens ont pour fonction de conduire, d'administrer, de gérer. Et comme je l'ai dit en introduction, c'est une tâche lourde. Ils ont aussi pour fonction de prendre soin du troupeau. Ce n'est pas que la tâche du pasteur, c'est la tâche de ce groupe qui, collégialement, se réunit dans un conseil qu'on peut appeler conseil d'église. Ça dépend des coutumes. Hein. Chez nous, c'est un conseil d'église. Ailleurs, on peut appeler ça conseil d'anciens, conseil presbytéral, conseil de paroisse, comité de responsables. Et on pourrait trouver d'autres désignations encore. C'est toujours la même réalité. Le conseil est conduit par un président. Et ce président, parfois, est le pasteur, comme c'est le cas chez nous. C'est moi-même qui préside le conseil d'église. Comment faisait-on à l'époque pour choisir des responsables, pour choisir des anciens? La Bible nous dit que nous sommes tous responsables d'une certaine manière, parce que nous sommes tous prêtres. Que nous sommes tous responsables devant Dieu. Qu'il n'y a pas d'un côté un clergé et de l'autre côté des laïcs. Nous sommes de ce point de vue-là tous à égalité. Mais l'égalité devant Dieu ne veut pas dire que nous faisons tous la même chose et que nous sommes tous interchangeables. Il y a besoin de gens que Dieu a équipés pour cela, pour conduire l'Église, encore une fois, dans ses ministères, soit de la parole, soit de gouvernance. Comment trouver, comment repérer ces personnes que Dieu a équipées d'un don de gouvernance pour son Église locale ? Quand on s'intéresse au texte biblique, et on va lire tout ensemble 1 Timothée 3 maintenant, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas tellement la description de ce qu'il y a à faire qui nous est donnée, mais davantage la qualité spirituelle, la qualité morale du responsable qui nous est décrite. Cela n'enlève encore une fois pas le fait qu'un dirigeant doit avoir la capacité de diriger, donc avoir les dons qui sont nécessaires pour cela. Mais le texte biblique, celui que nous allons lire et d'autres qui lui sont corrélés, ne met pas l'accent sur la description de ce qu'il y a à faire, mais sur les qualités personnelles qu'il faut avoir pour être responsable d'église. Et je vais faire maintenant avec vous une lecture commentée d'un texte qui est bien connu, 1 Timothée au chapitre 3. « 1 Timothée, chapitre 3, et là encore, la version biblique retenue a de l'importance, puisqu'il y a des choix de traduction qui sont faits, et que le vocabulaire n'est pas toujours traduit de la même manière. Donc, je vais lire dans la Bible du Semeur maintenant. On dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église, le terme dirigeant, c'est le terme épiscope, celui qui aspire à être un épiscope, un dirigeant dans l'Église, désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Vous voyez, je vais le commenter au fur et à mesure. Il y a ici la notion d'aspirer à une charge. On pourra laisser les versets bibliques à l'écran aussi à chaque fois. Il est question ici d'aspirer à une charge, à une tâche qui est belle, qui est noble. On est souvent empreint de fausse humilité. On pense qu'on n'a pas le droit de désirer des fonctions de gouvernance parce que ce serait peut-être faire preuve d'orgueil, manquer d'humilité. Mais ce n'est pas manquer d'humilité que d'aspirer à une tâche qui est noble et belle. Ce n'est pas avoir trop d'ego que d'aspirer à une tâche qui est noble et belle. Qui fait naître cette aspiration dans le cœur des croyants ? Je crois que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait naître cette envie de servir. La responsabilité d'épiscope, de dirigeant, implique d'avoir une autorité, de la sagesse aussi, du discernement, et puis le souci des personnes. On ne peut pas mettre à ce poste-là quelqu'un qu'on n'aurait jamais vu à l'œuvre. Il faut que cette personne puisse être éprouvée, qu'on ait pu voir comment elle exerçait dans la communauté. À l'époque, on choisissait généralement des personnes qu'on avait pu reconnaître dans l'exercice de cette tâche parce qu'il y avait des maisonnées. Ce n'est pas comme à l'époque actuelle où le foyer familial est souvent réduit à 3-4 personnes. À l'époque, c'était de grandes maisonnées, un peu à la manière africaine où la famille, ce n'est pas que les enfants, les propres enfants, mais ce sont aussi parfois les cousins, les neveux ou telle personne encore du village qui vient pour aider. C'est tout un groupe familial élargi. Diriger un tel groupe familial, à l'époque il y avait des esclaves aussi, implique de savoir exercer une autorité avec beaucoup de souplesse, de sagesse, d'amour. On pouvait repérer les gens qui avaient ces qualités-là. Et sans doute assez naturellement, ce sont auprès de ces gens-là que l'on s'est adressé pour leur dire « Voudriez-vous faire partie ?» du collège, du conseil d'anciens de l'Église. Aujourd'hui, nous ne sommes plus exactement dans le même contexte. Qui pourrait aspirer à cette charge ? Encore une fois, ceux que le Seigneur aura appelés à cette tâche. Il n'est pas toujours évident de repérer ces gens-là dans la communauté. C'est peut-être un peu plus compliqué qu'à l'époque. Et donc il ne me semblerait personnellement pas incongru que quelqu'un dont Dieu a mis cela à cœur vienne voir le pasteur ou le conseil d'église et dise l'opportunité de devenir un jour conseiller d'église. Est-ce que vous seriez prêt à m'aider dans ce discernement? Est-ce que vous seriez prêt à prier avec moi pour qu'on discerne ensemble ce que Dieu appelle à faire? Une telle démarche faite en toute humilité me paraît correspondre aussi à ce texte, celui qui aspire à être un dirigeant désire une belle tâche. Je continue avec le verset 2. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il est question ici d'un homme irréprochable. On peut d'emblée se demander, est-ce que ça pourrait être une femme ? Certaines communautés, par souci de fidélité à l'Écriture, considèrent que la fonction d'ancien, donc de dirigeant, à cause de la différenciation des rôles hommes et femmes, c'est une fonction qui est dévolue aux hommes. Pour nous, nous avons le même souci de fidélité à l'Écriture. Mais nous pensons que la différenciation des rôles se joue ailleurs et que cela n'exclut pas l'élection d'une femme à ce poste de responsabilité ou à celui de diacre, on le verra tout à l'heure. Il est dit ici que ça doit être un homme irréprochable. Ça ne signifie pas qu'il faille être parfait pour pouvoir être responsable. Je sais que beaucoup craignent de prendre des responsabilités pensant ne pas en être dignes. J'ai observé cela très très fréquemment. Il n'est pas question ici, en disant irréprochable, d'être parfait au sens où il n'y aurait rien qui puisse être mentionné de défauts ou de choses dans lesquelles on peut grandir et évoluer. Ici, ce qui est mis en avant, c'est la conduite. Irréprochable sur le plan de la conduite, notre conduite doit refléter les valeurs de Dieu. Et la suite du texte nous montre en quoi on doit être irréprochable. Il a dit qu'il doit être l'homme d'une seule femme, mari fidèle à sa femme. Certains comprennent ici que l'on ne doit pas choisir des dirigeants qui seraient polygames. Alors, c'est vrai en soi, mais je ne suis pas sûr que ce texte doive être compris comme cela, puisque la même expression se retrouve à propos des veuves un peu plus loin, au chapitre 5, verset 9, et que là, ce n'est pas une question de polygamie qui est mentionnée ou visée. D'autres comprennent que le responsable ne doit avoir été marié qu'une seule fois dans sa vie. Il ne devrait pas y avoir de remariage, même après un veuvage. Et c'est comme cela qu'on a longtemps compris ce texte. Un responsable d'église ne devrait avoir été marié qu'une seule fois. Et on comprend assez mal pourquoi ce serait un signe de faiblesse morale de se remarier, puisque Paul recommande justement le remariage, par exemple, à des jeunes veuves, un peu plus loin aussi dans la même épître. Donc, un veuf, parfois, a besoin de se réengager, et c'est même parfois souhaitable qu'il le fasse. Donc, je pense que l'interprétation de la semeur, qui dit qu'il doit être le mari fidèle à sa femme, c'est déjà donc une interprétation. Je pense que c'est bien comme ça qu'il nous dit à l'épouse qui est ici, un homme qui serait volage, qui aurait des comportements douteux à l'égard des femmes, à qui on pourrait reprocher d'être ambigu vis-à-vis de l'autre sexe. Cet homme-là ne devrait pas être pressenti pour un poste à responsabilité. Le dirigeant doit laisser l'image d'un mari qui est d'une parfaite fidélité, quelqu'un sur qui il n'y a pas de compromis possible sur cette fidélité à son conjoint. Et ça, c'est une grande différence par rapport à la société dans laquelle on vit. Une société qui a longtemps fermé les yeux de manière hypocrite sur les agissements d'hommes qui étaient dans des postes à responsabilité, mais qui vivaient très mal dans leur sphère privée. Il n'y a pas de sphère privée pour les dirigeants de l'Église. Il est dit de cet homme qu'il doit être maître de lui-même, sobre, c'est-à-dire qu'il doit avoir de la mesure. Il doit être capable de montrer une certaine retenue parfois. Il est dit aussi qu'il doit être réfléchi, pondéré, c'est-à-dire il doit être équilibré dans ses propos. On évoque ces temps-ci beaucoup les théories du complot. Je verrais mal un dirigeant d'église céder aux théories de complot, par exemple. Ce serait faire manque de mesure. J'ai pu observer parfois des personnes qui avaient un tempérament très volcanique, mais ça peut provoquer des dégâts quand ces éruptions ne sont pas maîtrisées. Il est dit aussi qu'il doit vivre de façon convenable, décente, c'est-à-dire qu'il sait se conformer aux bonnes mœurs. Il doit être hospitalier aussi. Vraisemblablement à l'époque, mais ça peut être vrai encore aujourd'hui, on accueillait des prédicateurs de passage, les missionnaires qui étaient en itinérance, qui passaient d'un lieu à l'autre, et il était attendu qu'un membre du conseil d'anciens puisse avoir cette hospitalité, ce sens de l'accueil. Il doit être capable d'enseigner, nous est-il dit. Dans une église, nous ne sommes jamais à l'abri de la contestation, et cette contestation peut avoir lieu parfois sur un plan doctrinal. Donc le responsable d'église doit être capable de tenir ferme face aux fausses doctrines. Il doit être capable aussi de promouvoir la saine doctrine. Il doit pouvoir réfuter les contradicteurs. La question se pose de savoir si un épiscope, un dirigeant ou un ancien doit toujours être capable d'enseigner publiquement. Quand Paul demande à son collaborateur Tite, dans l'épître à Tite, de nommer des anciens dans chaque église, il dit que l'ancien doit être attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée. Il ne demande pas que l'ancien sache enseigner, il demande qu'il soit attaché à la parole. Il n'exige donc pas de l'ancien qu'il ait une capacité à enseigner. Il n'exige qu'un attachement fidèle à l'Écriture. Dans la même épître à Timothée, 1 Timothée 5, verset 17, Paul écrit que les anciens doivent recevoir un double honneur pour la charge qui est la leur, et tout spécialement ceux qui se donnent de la peine dans la parole et dans l'enseignement. Ça implique que tous n'ont pas ce ministère de la parole et de l'enseignement. Seuls certains des anciens ont ce ministère de la parole et de l'enseignement. Par contre, tous les anciens ont un ministère de gouvernance. Un épiscope doit-il être apte à enseigner publiquement? C'est la question qui se pose dans notre texte. Si les termes ancien et épiscope sont quasiment synonymes, ou si on les rend vraiment synonymes l'un de l'autre, alors il faudrait comprendre que l'aptitude à l'enseignement qui nous est demandée ici, c'est essentiellement une capacité à être bien formé dans la parole de Dieu et être capable de repérer les faux enseignements qui pourraient pénétrer dans l'Église, être capable aussi d'un dialogue en un à un pour réfuter des contradicteurs. Mais ça n'impliquerait pas un ministère public. Par contre, on peut peut-être aussi faire une petite différence entre l'épiscope et l'ancien et considérer que l'ancien, c'est une fonction large dans laquelle on peut trouver des épiscopes qui, eux, ont toujours la charge publique de l'enseignement. À ce moment-là, les épiscopes seraient un groupe particulier au sein du groupe des anciens. C'est ceux qui auraient un ministère spécial de la parole qui seraient mentionnés comme étant des épiscopes. Je vous rappelle que le texte de 1 Timothée 3 parle des épiscopes. C'est difficile de se prononcer de manière ferme, et vous voyez que parfois l'étude de l'Écriture ne nous conduit pas à des décisions assurées. Mais ce que l'on peut dire, en tout cas, de manière sûre, c'est que l'ancien ne doit pas avoir un ministère public de la parole pour pouvoir être ancien. Donc on peut nommer quelqu'un dans une fonction d'ancien, dans un collège d'anciens, pour diriger l'Église, sans qu'il doive nécessairement avoir un ministère public de la parole. Et si on considère qu'il y a une différence entre anciens et épiscopes, les épiscopes seraient ceux au sein de ce collège d'anciens qui ont aussi un ministère de la parole. Je continue dans ma lecture. Verset 3, il est dit qu'il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique, que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise. Ni buveur, ni coléreux. Souvent, la boisson amène à la colère. Et malheureusement, notamment dans des régions viticoles, il peut y avoir un piège lié au fait de s'adonner au vin, d'en prendre trop, d'en boire plus que de mesure. Cela ne convient pas à un responsable d'église. Cela ne convient pas non plus à un chrétien tout court. En fait, toutes les qualités que nous observons ici sont des qualités qui sont exigées de tous les chrétiens. Simplement, on va être beaucoup plus attentif sur des dirigeants de par la position en vue qui est la leur, parce qu'ils sont appelés à être des modèles. On va les observer, on va voir à quoi ressemble la vie chrétienne chez un responsable d'église. Donc, eux doivent être d'autant plus rigoureux, vigilants sur le fait de mener une vie chrétienne exemplaire. Il est dit encore que le responsable doit être aimable et pacifique, conciliant. J'ai connu un responsable qui quittait parfois certaines séances dans une grande colère, en claquant la porte. Je crois que cette attitude ne convient pas à quelqu'un qui est dirigeant dans une église. Il est dit qu'il ne doit pas avoir l'amour de l'argent, qu'il doit être désintéressé, altruiste, généreux. Et pour être altruiste et généreux, il faut être confiant en Dieu. Quand on a un budget d'église serré, que l'on pense que chaque centime compte parce qu'on ne va pas s'en sortir, il peut devenir difficile d'être altruiste et généreux. Et pourtant, il y a une confiance en Dieu qui est demandée pour celui qui est dans un conseil d'église, non pas pour qu'on dilapide l'argent, qu'on l'utilise mal, mais pour qu'on ne soit pas agrippé non plus à l'argent. Verset 4, il est dit ceci, qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Un texte qui peut sembler compliqué aujourd'hui. Bien diriger sa famille. J'ai expliqué avant que les familles de l'époque étaient des familles très larges, c'était des groupes familiaux. Le chef de famille, dans la société de l'époque, pouvait parfois être tyrannique à l'égard de son épouse, à l'égard de ses enfants. Ici, il est dit qu'il doit bien diriger. Cela veut dire qu'il doit avoir une autorité douce, aimante, qu'il doit sortir d'un mode de gouvernement tyrannique pour être à l'écoute. Les enfants étaient peu écoutés à l'époque. Il est question ici de permettre à chacun de grandir avec le Seigneur, de favoriser finalement la maturité spirituelle de tous les membres de la famille et pour cela d'exercer une saine autorité. Pas de violence, pas de contrainte. Celui qui avait cette capacité naturelle, cette autorité naturelle de bien diriger sa famille, va aussi être en mesure de bien diriger l'Église. Mais celui qui ne sait pas diriger son propre groupe familial, comment voulez-vous qu'il dirige un groupe plus grand encore ? C'est pour cela que ce critère est mis en avant. Il est dit maintenir ses enfants dans l'obéissance ou dans la soumission. Aujourd'hui, quand on entend le mot soumission, ça peut nous faire réagir, nous pouvons avoir peur. Et sachant qu'à l'époque, l'autorité pouvait être tyrannique, que voulait dire la soumission des enfants à leurs parents ? Le fait de bien diriger implique forcément que l'autorité est bienveillante à l'égard des enfants et que s'il leur est demandé soumission, ce n'est pas par la violence. Il est dit en toute dignité. Aujourd'hui, il y a des pères. Cela fait partie de ce qu'on lit dans les médias ces dernières semaines. Il y a des pères qui abusent de leurs enfants, qui honteusement profitent de cet état de force qui est le leur en tant que père pour se soumettre leurs enfants à leur vil désir. Ils utilisent leurs enfants comme des objets pour satisfaire leur convoitise. C'est honteux, c'est indigne. Ici, il est dit que le père doit exercer avec respect, avec dignité. Il doit dignité aux membres de sa famille. Je continue avec le verset 5. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu ? Ce verset a parfois posé des questions. Comment faire quand un responsable d'Église a des enfants qui ne suivent pas le Seigneur ? Doit-il démissionner de ses fonctions ? Doit-il se retirer de sa fonction de gouvernant de l'Église ? La question se pose parce que le dirigeant, encore une fois, est dans un poste très en vue. On l'observe. On regarde comment il gère sa famille. La société d'aujourd'hui, néanmoins, ne ressemble pas à la société antique. Dans la famille antique, les enfants n'allaient pas à l'école. Ils étaient dans un milieu protégé. Ils grandissaient souvent jusqu'à un âge avancé au sein de leur groupe familial. Donc il était beaucoup plus facile de transmettre les valeurs de la famille que cela ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants vont à l'école, subissent toutes sortes d'autres influences aussi. Non seulement dans le milieu scolaire, mais aussi par les médias, par tout ce qu'ils peuvent voir sur leurs écrans. Et donc, plus vite que ça ne l'était à l'époque, ils deviennent indépendants, autonomes de leurs parents. Ça se fait à un moment donné, au cours de l'adolescence. Cela dépendra d'un enfant à l'autre. Chaque enfant n'a pas la même maturité au même moment. Mais il se peut qu'un enfant prenne son indépendance vis-à-vis de ses parents déjà pendant le temps de l'adolescence et qu'il fasse le choix d'une autre vie et d'autres valeurs que celles qui ont pu lui être communiquées par ses parents. Ce qui est en jeu dans ce texte, ce n'est pas la possibilité qu'un enfant fasse d'autres choix. L'obéissance qui est attendue, c'est une obéissance de jeune enfant, quand il est encore sous l'autorité de ses parents. Il est normal qu'à un moment donné, l'enfant fasse ses propres choix. Les parents ont transmis ce qu'ils pouvaient transmettre pendant le jeune âge, et ensuite l'enfant avance à la manière dont il veut avancer. Si un enfant fait des choix à l'âge où il devient adulte, qui ne sont plus ceux des parents, je pense que ça ne doit pas empêcher les parents de continuer d'exercer leur responsabilité en Église s'ils ont une fonction de responsable. La question se pose différemment quand l'on s'aperçoit que des petits-enfants à 2 ans, 3 ans, qui font déjà la loi à la maison, que le père n'a aucune autorité dans la famille, qu'il ne sait pas diriger même la vie de ses enfants, qu'il ne sait pas demander obéissance et respect de la part de ses enfants. Dans ces cas-là, il me semble prudent de ne pas confier une responsabilité plus grande à cette personne dans la gestion de l'Église. Et là, je pense qu'on doit être attentif, parce que ce texte a une importance, me semble, quand même capitale. Celui qu'on nomme à une fonction de responsable doit savoir gérer un groupe. Je continue avec le verset 6, le temps avance. Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous la même condamnation que le diable. Le risque pour un nouveau converti n'est pas tellement de ne pas savoir bien administrer les affaires de l'Église. Ce n'est pas non plus tant de ne pas savoir bien maîtriser ce ministère de la parole. C'est plutôt un risque spirituel ici qui est mentionné. C'est le fait d'avoir des responsabilités importantes, de devoir se présenter devant la communauté, de prendre la parole, d'exprimer des avis, d'exhorter des frères. Tout cela peut donner à quelqu'un le sentiment qu'il a une vraie autorité, un vrai pouvoir entre ses mains. Et il peut être guetté par l'orgueil. Et le diable ne cherche que cela. Il ne cherche qu'à faire tomber cette personne. On ne doit donc pas placer un jeune croyant dans une position de responsabilité, au risque qu'il soit pris par l'orgueil et qu'il tombe. C'est cela que Satan cherche. Il cherche à faire tomber les enfants du Seigneur. Et quand un dirigeant tombe, c'est toujours un drame pour l'Église. Il entraîne parfois non seulement sa propre réputation, mais toute la réputation de l'Église. Donc on doit être vigilant. Verset 7, enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Cette dernière recommandation est importante. Le dirigeant doit jouir d'une bonne réputation dans la société, parmi les non-chrétiens. On n'attend pas seulement qu'il ait une belle vie de foi, mais on attend à ce que sa réputation à l'extérieur de l'Église soit également bonne. Qu'on n'entende pas des non-chrétiens avoir une mauvaise opinion de lui et du coup, au travers de lui, de toute l'Église entière. Parce que cela ternirait le message de l'Évangile. Donc on ne va pas mettre en position de responsabilité quelqu'un qui n'est pas en mesure d'avoir ce bon témoignage dans ce qu'il fait. J'avance un peu et je vais essayer de vous présenter une fiche pratique maintenant qui synthétise un peu comment choisir concrètement un bon candidat. Je vais demander à la technique de mettre ma première fiche pratique. Comment choisir un bon candidat? Si j'essaie de faire un peu une synthèse de ce que l'on vient de voir, je dirais que pour désigner quelqu'un en poste de responsable, une communauté, elle peut se fier à la qualité de son engagement dans la vie communautaire, à la façon aussi dont il a assuré des missions au sein de l'Église jusqu'à présent, à sa solidité morale et spirituelle, à ses bons rapports avec les autres membres de la communauté, à son aptitude à exercer une responsabilité qui touche l'ensemble de la communauté, et puis à sa disponibilité en temps pour servir, parce qu'il faut du temps pour servir. Quelqu'un peut avoir toutes les autres qualités, mais s'il n'a pas de temps à offrir, il vaut mieux qu'il n'occupe pas cette position de responsabilité. Pour choisir quelqu'un, une église doit prendre le temps de la réflexion et le temps de la prière. Les modes de sélection varient d'une église à l'autre et ce n'est pas le lieu maintenant d'entrer plus en détail. Je vais lire rapidement encore avec vous la suite du texte. Il est question maintenant des diacres. Les diacres sont une deuxième catégorie de personnes qui est mentionnée après celle des anciens, des épiscopes. Ce sont des gens qui, dans un sens large, exerce un service pour la communauté. Diaconeo veut dire servir, servir les autres dans la communauté. Dans un sens, nous devrions tous servir dans la communauté. Donc nous avons tous un ministère de diacre, si vous voulez. Mais ce terme a pris une connotation un peu plus précise, plus technique, et elle s'applique à des services particuliers dans la vie de l'Église, qu'il n'est pas tout facile d'identifier avec le peu de données que nous avons dans le Nouveau Testament, mais on peut penser qu'un diacre, c'est quelqu'un qui distribue de la nourriture pour les pauvres, par exemple, dans Actes 6, c'est quelqu'un qui peut s'occuper des finances, c'est quelqu'un qui peut avoir une responsabilité dans la vie de l'Église. Dans notre Église, nous avons une personne qui gère, par exemple, tous les ateliers bibliques, c'est-à-dire tout le ministère de l'enfance. Elle occupe une fonction de diaconesse. Nous avons quelqu'un qui gère tout l'aspect technique de nos cultes. Ben, c'est un diacre de par sa fonction. Nous avons quelqu'un qui gère la commission immobilière. Eh bien, cette personne est diacre par sa fonction. Donc, toutes les personnes qui occupent des postes à responsabilité, sans avoir la gouvernance complète de l'Église, sont des diacres. Et ces diacres peuvent se retrouver sans doute aussi dans les conseils d'anciens, qui, eux, ben, regroupent des gens qui ont le ministère de la parole et des gens qui peuvent avoir des services parfois plus spécifiques. Je vais vous lire ce texte. Inspirer le respect, qu'ils soient des hommes de parole, sans penchant pour la boisson ni pour le gain malhonnête, ils doivent garder une bonne conscience, la vérité révélée de la foi. Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. Il faut qu'eux aussi soient d'abord mis à l'épreuve, un peu comme on le faisait précédemment, hein, pour les épiscopes, qui ne doivent pas être des jeunes croyants, donc on les a éprouvés. Il en va de même pour les diacres. Ils doivent avoir été éprouvés dans leur fonction, dans leur vie de foi. Il faut qu'eux aussi soient d'abord mis à l'épreuve. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. Ensuite, il y a un saut dans le texte. Il en va de même pour les femmes diacres. Elles doivent inspirer le respect, qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles soient maîtresses d'elles-mêmes et dignes de confiance dans tous les domaines. Et on revient aux hommes. Que les diacres soient des maris fidèles, qu'ils assument bien leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants et de leur famille, car ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Vous avez vu que ce texte mentionne à peu près les mêmes qualités que pour les premiers dirigeants que nous avons mentionnés. Donc je ne reviens pas sur l'ensemble de ces qualités. Il y a une spécificité ici, c'est la présence de femmes qui apparaissent au milieu de ce texte. Et la question c'est de savoir, est-ce qu'il est fait mention ici de la femme du diacre ou de femmes qui ont une fonction de diaconesse. Le choix, encore une fois, entre ces deux options n'est pas tout facile. Je pense qu'on peut suivre la Bible du Sommeur qui propose d'y voir des femmes diacres. On a en tout cas, une fois dans le Nouveau Testament, une femme qui est diacre, qui a cette fonction de diacre. On le sait, elle s'appelle Phoebé. Elle est mentionnée en Romains 16, verset 1. On ne sait pas précisément quel était son rôle, mais on sait qu'elle aidait Paul et qu'elle avait une fonction particulière de responsable. On peut penser, quand on pense aux diaconesses, puisque c'est comme cela qu'on peut mettre ce terme au féminin, on peut penser qu'il pouvait s'agir d'un ministère particulier à l'époque, comme d'un ministère de visite, ou peut-être une aide particulière au bénéfice des femmes de la communauté. En tout cas, ce texte nous montre l'importance de bien choisir tous ceux qui ont un profil de responsable, qu'ils soient anciens, épiscopes, ou qu'ils soient diacres. Donc même en dehors du choix de membres du conseil d'église, chaque fois qu'on choisit un responsable, il est primordial d'y attacher de l'importance et de bien choisir ses responsables. On peut noter au sein de notre conseil d'église qu'on trouve des hommes, des femmes, que certains membres du conseil ont un ministère de la parole, d'autres pas. Et donc qu'on a au sein de notre conseil, qu'on pourrait appeler un conseil d'anciens, on a des gens qu'on pourrait appeler épiscopes et d'autres que l'on pourrait appeler aussi diacres ou diaconesses. Et on peut mentionner encore que nous avons au sein de notre église des gens qui sont des diacres, même si on ne les a jamais nommés comme tels, dans des postes à responsabilité. Ça peut être la distribution alimentaire, ça peut être un service de nettoyage, une équipe à gérer. Tout cela, ce sont des fonctions de diacre. J'aimerais arriver à la fin de mon enseignement. Il a un peu duré ce matin, mais j'aimerais vous montrer une fiche pratique encore qui vous permet de visualiser un peu tout ce que j'ai dit ce matin. Quel est le profil d'un responsable ? D'abord, il y a un titre biblique qui peut s'appliquer à lui. Ancien, épiscope, conducteur, dirigeant, responsable, surveillant, guide, leader. Ça, c'est le responsable. On peut lui donner un titre dans l'Église. On peut l'appeler responsable, conseiller, ancien. Quelles sont les qualifications qui lui sont demandées ? Eh bien, on va s'attendre à ce que cette personne s'investisse dans la vie de la communauté de ainsi que pour la qualité de sa vie morale. On va s'attendre à ce qu'elle ait des aptitudes qu'elle peut mettre en valeur dans cette fonction. Cette personne doit aussi avoir déjà une expérience de la direction d'un groupe. Et puis elle doit être capable de travailler en équipe avec les autres responsables. Quelle va être sa fonction précisément ? Une fonction de surveillance globalement, une fonction de gestion, d'administration. Mais elle va s'investir en fonction des dons plus spécifiques que le Seigneur lui a donnés. Elle va aider l'Église à accomplir sa mission et elle va participer collégialement à la direction de la communauté. À noter, quand même, trois points importants. C'est que cette personne ne dispose pas d'un pouvoir spécial qui ferait d'elle quelqu'un d'à part. C'est un chrétien comme les autres. À noter aussi que pour être dans un conseil d'Église, il n'y a pas besoin de savoir prêcher publiquement. Par contre, il faut une bonne connaissance de la parole de Dieu. Il s'agit aussi de mentionner que c'est une fonction qui est exigeante et qui nécessite d'avoir du temps à disposition. Et face à cette exigence de la charge, sachant aussi que les responsables ne sont pas des surhommes ou des surfemmes, ils sont simplement des chrétiens consacrés qui veulent vivre leur foi de manière authentique, dévouée, avec un esprit de sacrifice, eh bien ces personnes méritent qu'on prie pour elles. Un ministère, ministère veut dire service. Celui qui exerce un ministère exerce un service pour Dieu au sein de la communauté. Qui est suffisant pour être responsable? Personne. Personne sans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est nécessaire. Prions pour nos responsables. Et je vous invite à le faire maintenant pour terminer ce temps d'enseignement. Père, je te prie pour ceux qui actuellement portent une responsabilité dans notre communauté. Que pour chacun d'entre nous, tu nous permettes de nous examiner, de nous remettre en question par rapport aux qualités attendues qui ont été mentionnées, que tu nous aides à corriger ce qu'il y aurait lieu de corriger, mais que tu nous aides à te servir avec joie, avec dévouement, avec humilité, toujours au service de ton corps, de ton Église. Forge notre caractère pour qu'il puisse refléter celui de Jésus-Christ. Te demandons, Seigneur, de préparer aussi de nouvelles personnes qui puissent occuper bientôt des responsabilités. Forme-les dans leur être, dans leur capacité de faire. Forme-les, Seigneur, pour la tâche à laquelle tu les appelles. Pourvois, Seigneur, comme tu le promets dans ta parole, pourvois aux besoins de ton Église, pour la nôtre, pour toutes les autres églises que nous pouvons représenter avec ceux qui suivent cet enseignement ce matin. Pourvois, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen.